Message à caractère informatique.
Message à caractère informatique.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, épisode numéro 154. Aujourd'hui, nous sommes le 10 février 2026, je suis Horacio González et aujourd'hui, je suis en petit comité accompagné de deux personnes merveilleuses. Qui se cache derrière cette antiquité en vieux bouquin Java? C'est bien Sébastien Prunier. Bonjour Sébastien.
Bonjour Horacio.
Et derrière ce joli wooden doll, qu'est-ce qui peut être? Bah, c'est Clément, Clément Nivol. Bonjour Clément.
Salut Horacio.
Bah, ça me fait super plaisir de vous avoir boudé ici pour ce massi.
Et bah, donc, écoute, plaisir partagé.
Pour démarrer, autant faire un... Non, avant de faire les tours de table, petit spoiler, aujourd'hui cet épisode aurait dû être un autre épisode, la suite des précédents 153, mais un problème technique nous a empêché de pouvoir vous proposer le deuxième épisode avec David Cosinus, donc il faudrait le réinviter au massi. Donc l'épisode 154 démarre avec un petit tour de table. Sébastien, tu peux te présenter et nous raconter qui tu es?
Oui, alors moi je suis Sébastien, développeur depuis une vingtaine d'années, ça me fait mal de dire ça, on vieillit, développeur senior on va dire, dans une ESN qui s'appelle Serly. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Serly organise le Jug Summer Camp par exemple, qui est la conférence de la rentrée à La Rochelle. Voilà, moi je suis tech lead, je travaille avec des gens formidables au quotidien, sur plein de projets super sympas, et depuis peu je suis ambassadeur Clever Cloud. Voilà, sur la
Merci.
Première cohorte d'ambassadeurs.
Merci Sébastien. Et Clément, ça fait un moment que tu ne venais pas à Massy, donc tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas ou ils sont oubliés vu que tu nous gâtes pas souvent avec ta présence.
C'est vrai que l'emploi du temps est un peu chargé en ce moment, mais ça fait une petite année que je suis pas venu. Alors moi, je suis Clément Nivol, je suis un des cofondateurs de Clever Cloud depuis maintenant une petite quinzaine d'années, bientôt 16. Là, on arrive sur cet été aux 16 ans de Clever Cloud. Et moi, j'ai participé à pas mal de directions où j'ai fait du commerce, j'ai fait du marketing, j'ai fait un peu d'ingénierie. Aujourd'hui, je m'occupe principalement du support technique, de structurer la partie support technique. Donc en fait, on prend toutes les questions, techniques ou non, qui nous viennent sur le produit, et on aide nos clients à déployer, à redémarrer leurs applications, à les faire scaler, etc. Voilà.
Nickel. Bon, bah. Et dans cet épisode, on s'est mis à regarder les liens avant de les enregistrer. On a énormément de trucs à dire sur plein de sujets. Donc allez, je lance la balle, qui veut la rattraper? Qui veut démarrer avec un sujet?
Moi je peux y aller si tu veux,
allez.
Je propose qu'on discute des MCP apps dans le vif du sujet, parce que c'est quelque chose qu'on expérimente pour un de nos clients depuis quelques jours ou semaines. Donc c'est très court. L'idée globale, pour expliquer un petit peu ce que ça va être de pouvoir déployer sur les plateformes d'IA, ChatGPT, Mistral, Claude, une application qu'on a développée. Et du coup, on va pouvoir, dans le chat, solliciter cette application avec un petit arrobas. Donc par exemple, arrobas Clever Cloud, on pourrait imaginer ça. Et puis du coup, aller discuter, récupérer des informations une fois qu'on est connecté à son compte Clever. Du coup, aller demander en langage naturel, enfin interagir avec l'app en langage naturel dans le chat. File-moi les logs des dernières heures de telle appli. Est-ce que tout va bien sur mon infra? Voilà, ce genre de choses. Donc c'est basé sur le protocole MCP. Pour du coup interagir avec des systèmes externes, donc les systèmes d'information, nos systèmes d'information. Récemment, et c'est le lien que j'ai partagé, il y a MCP Apps qui est arrivé et qui va permettre d'aller déployer, enfin d'aller propulser dans le chat des composants graphiques, donc des ressources graphiques, des pages web, ses propres formulaires au sein du chat.
Voilà. Et la différence, c'est que
standardise.
C'est standardisé parce qu'il y avait MCP UI, il y avait plusieurs essais. Et là où Anthropic était très intelligent pour ces parties-là, c'est que plutôt que sortir un truc concurrent, ils ont pris les bonnes idées qu'il y avait et ils les ont fait faire partie des standards.
Ouais, moi j'avais une petite question. En fait, la question c'est où est-ce que c'est hébergé? Est-ce que c'est une application avec un manifeste que tu vas coller directement chez Anthropic ou OpenAI? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu héberges sur tes propres serveurs que eux vont pool ensuite pour enrichir en fait le chat? Comment ça se passe?
Alors, moi je vois ça un peu comme comme quand on déploie une app mobile, un peu. Enfin, c'est un peu l'expérience que j'avais. En fait, on va avoir
D'accord.
son. En fait, aujourd'hui, nous, par exemple, notre serveur MCP, il est hébergé sur Clever Cloud. Et après, on va venir activer le mode développeur si on veut tester dans OpenAI, par exemple, dans ChatGPT. Et on va référencer ce serveur MCP, mettre la petite icône qui va bien. Et du coup, c'est comme ça que ça va fonctionner.
C'est la même façon de fonctionner qu'un serveur MCP dit classique.
Ouais.
Et ça, c'est l'avantage, c'est que tu ne dépends pas d'un provider, ça marche avec tous, non seulement les providers, mais aussi l'outillage. Donc, quand tu as ton extension dans ton IDE, il peut se connecter. Quand tu as sur l'appli web de ChatGPT ou de Claude, il peut se connecter. Quand tu utilises une appli locale type Goose, que c'est une appli très sympa, il peut se connecter. En Oyama Resan, il peut aussi se connecter. C'est simplement un standard interopérable pour pouvoir faire ce type de choses, plutôt que dépendre simplement d'une solution fournie par un des providers.
Alors ce qui est intéressant, c'est que la portabilité à laquelle tu fais référence, ça marche plutôt bien, en
Ah
fait.
oui!
Nous, on a testé la même codebase déployée sur ChatGPT, sur Mistral et sur Claude. Ça marche plutôt bien. Alors, pourquoi l'article est intéressant, c'est que on se disait, ah ouais, donc ça, ok, c'est basé sur MCP, donc c'est normal que ça soit plutôt portable. Mais il y avait la partie UI où c'était pas encore tout à fait le cas et on commençait à avoir un peu du code spécifique en disant si c'est sur OpenAI, c'est comme ça qu'il faut causer, etc. Et en fait, le lendemain, il y a l'article qui est sorti sur MCP Apps qui, du coup, venait standardiser tout ça. Donc, ça va hyper vite, en fait. C'est ça
C'est très
qui est
drôle
très
parce que j'ai
intéressant.
eu un peu la même expérience. J'ai refait une version de mon talk sur le MCP pour la semaine dernière et j'ai dit, est-ce que je parle d'MCP UI, mais c'est pas standard et machin. Et juste le jour où j'ai fini ma préparation, je vois l'article, bon, il faut que je réécrive tout ça parce que là, c'est un game changer de fait que c'est standardisé. Et ça nous ramène au fait que MCP et toutes ces galaxies d'outillages pour interfacer les CLM avec tout type d'application, c'est standardisé et répandu d'une façon fulgurante. Ça fait beaucoup de temps que je suis dans les devs, plus que Sébastien même, ça dit que je suis vieux, et j'ai rarement vu une techno décoller à ce niveau-là, mais de façon standardisée. C'est ça qui m'a surpris, moi.
Bah, en fait, alors oui, ce qui est très drôle, et on pourra faire des parallèles avec peut-être une période que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ce qui est marrant dans l'article, c'est que ça dit, bah ok, du coup MCP Apps c'est supporté sur Claude dès maintenant, et ça sera supporté sur ChatGPT la semaine prochaine. Donc on parle de semaines.
C'est
Bon,
ça!
nous, on a quand même connu l'époque où il y avait une release de Java tous les 5 ans, où la guerre dans l'écosystème des navigateurs web avec, enfin, il y a quand même CunIUse qui existe pour savoir si les features sont supportées sur quel navigateur, etc. Là, ça va hyper vite, quoi. Et je trouve que c'est agréable parce que voilà, on
Ça
n'est
me
plus dans
rappelle
des.
tellement mon époque de développeur front. Tiens, il y a un nouvel standard, une nouvelle API. Quand est-ce que ça sera supporté? Bon, dans 5
Voilà,
ans, on
c'est ça.
pourra peut-être l'utiliser dans une appli normale.
Voilà, c'est ça. C'est que
Ouais.
tu te rends compte à quel point, en fait, le temps qu'on a aujourd'hui, le financement qu'il y a dans ces structures-là, et en plus le taux de productivité qu'apporte l'IA dans tout ça,
Ouais.
ça compte compresse, mais d'une façon folle, en fait, le cycle de release. Où déjà Chrome était bien vénère en allant te dire, attends, toutes les 3 semaines, on te fait une nouvelle release. Et ça avait pris de court Firefox et Safari. Alors, Safari a toujours pas suivi d'ailleurs, mais les autres navigateurs avaient suivi. Et ouais, je faisais aussi le parallèle avec les navigateurs d'autrefois, où quand tu te retrouvais avec CSS3, tu te disais, bon, quand est-ce qu'on va pouvoir faire des border radius dans tel ou tel navigateur?
C'est ça.
Et là,
Ouais.
maintenant, sur ces outils-là, on se retrouve exactement avec les mêmes cycles. Et ce qui est drôle, c'est que dans les pratiques de développement, on en parlera après, mais on a aussi des évolutions qui ont besoin de se faire. Comme
Bah
on avait
oui.
eu des
Oui.
problèmes dans les développements sur les premiers langages, sur, tu sais, quand tu t'appropriais certains outils, comme les VCS et tout ça, tu te disais, bon, comment est-ce qu'on se structure pour travailler à plusieurs? Et aujourd'hui, avec l'IA, c'est, t'as la même question maintenant qui se pose.
Bah, c'est clair, et on en parlera des méthodes. Simplement pour finir sur la partie standardisation, ce qui me surprend, c'est de ça et des choses comme par exemple maintenant avec Olama, je crois que c'est un autre des articles qu'on a. Tu peux utiliser derrière l'API Anthropic, donc ça veut dire que tu peux brancher ton cloud code devant un Olama. Et donc, basiquement, tout l'écosystème, il est en train de se structurer autour d'une interopérabilité. Jusqu'à il y a un mois, le standard de facto de API était OpenAI parce que c'était le premier qui avait offert une API complète. Maintenant, c'est même plus ça. Les applis et les solutions, même open source, peuvent se permettre de proposer plusieurs compatibilités. Tiens, on est compatible OpenAI, on est aussi compatible Anthropic, et du coup, l'interopérabilité marche d'une façon beaucoup plus rapide, et il y a beaucoup moins de monde qui dit non, moi je suis team ChatGPT et moi je suis que team Cloud. La plupart des développeurs, BIOS, teste, voit, et ça c'est aussi pour moi un changement dans la façon de faire. Je ne sais pas si vous le voyez comme ça, mais.
Si. Je suis assez d'accord avec toi. En fait, il faut pas. Ce qui est vrai, alors surtout dans le monde de l'IA aujourd'hui, ce qui est vrai aujourd'hui est peut-être plus vrai demain ou la semaine prochaine. Je pense qu'il faut pas s'entêter sur des acquis qu'on peut avoir à un instant T. Il faut toujours se remettre en cause de manière permanente et tester. Voilà. Ça, je pense, que c'est hyper intéressant. Sur l'article auquel tu fais référence sur le fait qu'on peut en gros brancher Cloud Code sur Olama. En fait, c'est intéressant de. Moi, je trouve d'un point de vue aussi souveraineté ou en tout cas privacy un peu, parce que aujourd'hui, moi, je sais que nous, on travaille pour des clients dans l'industrie où, en fait, on ne peut pas forcément utiliser l'IA pour des raisons de privacy, parce qu'il est hors de question que du code ou autre parte sur des modèles américains, etc. Donc là, du coup, ça ouvre cette possibilité-là de faire du cloud code avec un modèle qu'on auto-héberge qu'on va venir pool dans Olama. Donc ça, c'est hyper intéressant pour ce use case-là aussi. Moi, je vois ça comme premier use case.
Est-ce que vous savez tester des modèles locaux pour faire des codes? Est-ce que vous...
Ouais, moi j'avais testé Devstral et GPT-OSS. Alors, ça marche bien. Faut donner le contexte technologique de chacun. Moi, je suis sur un M1 Pro. Donc c'est une bécane qui a 5 ans avec elle est à l'aise en RAM hein, elle doit avoir 32 je crois. Mais quand tu démarres ces projets-là, faut pas avoir une base de code trop grosse. Parce que t'as peut-être contexte Windows à coûte cher en RAM et surtout en compute et faut pas être pressé. Par contre ça marche. Tu peux coller effectivement un Olama. Maintenant, j'ai pas testé avec Cloud Code pour faire tourner ça, mais ouais, moi mon contexte d'usage c'était que j'avais des clients qui avaient des bugs assez compliqués sur Clever Cloud, au support technique, ils viennent nous voir et nous disent voilà, on a un problème, on a un truc qui se met à cracher régulièrement, on comprend pas pourquoi. Et on n'a pas de problème dans les métriques, CPU, RAM, tout est OK, etc. Et en fait, c'est avec leur autorisation, j'ai pris leur code, je l'ai analysé en local pour pas l'envoyer chez OpenAI ou Anthropic, je l'ai analysé en local, et c'est là que ça devient intéressant ces trucs-là. Alors, on a trouvé, au bout d'une demi-heure, mais on a trouvé dans du code spaghetti, effectivement, un peu compliqué, les raisons de pourquoi on avait des OOM ou ce genre de choses qui arrivaient, quoi, qui étaient dures à détecter. Et en fait, le code est tout à fait capable de dire, ouais, mais je connais la payload de Google quand tu lui tapes sur cette API, elle est gigantesque et tu la fous dans ton terminal et du coup, c'est là que ça plante. Ah oui, tu vois, c'est pas mal.
Voilà, ça, pour un ordinateur qui n'est pas une bête de foudre, moi j'utilise un MacBook Air, même pas le Pro, c'est un M4 mais Air avec 32 Go de RAM. L'avantage de MacBook pour ça, c'est que la mémoire est partagée entre la CPU et la RAM, donc ça veut dire que de facto, j'ai une GPU qui a 32 Go de RAM. Et là, des modèles comme les GPT-OSS, ils tournent super bien. Sinon, dans des modèles locaux, Il y a un qui me fait rêver en ce moment, c'est le Queen 3 Coder Next. En
pourquoi gros, il te fait rêver?
Me fait rêver parce que c'est un modèle à 80 milliards de paramètres, c'est-à-dire qu'avec 48 gigas de GPU, on arrive à les faire tourner et il a des performances équivalentes à des modèles de 800-900 milliards de paramètres. Ils ont fait un modèle sparse, un modèle qui n'active pas tout. Et en plus, il est hyper efficient et les résultats de tous les events que vous avez mis les liens sont hallucinants. Donc bon, j'ai un pote qui a des gros GPU, on est en train de les monter pour les tester, mais si ça correspond vraiment au benchmark qu'il y a, on a un modèle qui se rapprocherait de ce que était un Cloud Code il y a une année.
Au plus 4.5, ouais.
C'est un modèle spécifique pour des codes qui avec un poids relativement raisonnable, et j'ai dit relativement raisonnable parce que oui, une carte graphique à 48 gigas de RAM, c'est beaucoup, mais en même temps, comparé avec des modèles qui prennent un data center pour tourner, c'est presque rien. Et donc, ça va dans l'idée de... Je continue à penser que les petits moyens modèles bon être les vrais changements des données.
Oui, je suis complètement d'accord avec ça. D'ailleurs, c'est ça qui est drôle, je vais juste faire une digression intéressante, c'est que il y a pas mal d'analystes en ce moment qui sont en train de se chauffer sur un sujet, c'est tous ceux qui se sont mis à faire des modèles, comme des fous, à mettre des milliards dans l'entraînement de certains modèles, généralistes. Donc on parle surtout d'OpenAI. Ils se retrouvent quasiment aujourd'hui le bec dans l'eau financièrement, dans des structures impossibles à financer, parce que maintenant, améliorer un modèle, tu le fais à la marge, quand tu rajoutes un modèle supplémentaire. Maintenant, on en parlera peut-être avec les nouvelles versions d'OpenAI Codex, mais ça s'améliore dans un domaine. C'est pas forcément des améliorations généralistes auxquelles tu vas t'attendre sur les nouveaux modèles. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point aujourd'hui Apple s'est de façon assez cynique positionné sur Gemini en se disant je vais choisir une boîte pour faire le futur de mon mode truc génératif, une boîte qui a déjà fait les modèles, donc Apple ira pas se mettre dans la misère à faire des modèles et à faire des entraînements alors que tout le monde a de l'avance dessus. Tu rachètes une boîte qui est solide sur ses appuis, Google. Tu rachètes le modèle d'une boîte qui est solide, oui, sur ses appuis. Tu vas pas chez Anthropic qui commence à se faire son pognon sur des modèles très spécifiques et sur le code, etc. Ça, on le voit bien. Et tu vas pas non plus chez OpenAI qui est en train d'essayer de se structurer à coup de fonds chez Microsoft, de cartes graphiques chez Nvidia, etc. Et donc, du coup, le poids du modèle n'est pas si rentable que ça. Par contre, Apple va se concentrer sur la distribution. Là où eux, en fait, ils ont des téléphones qui sont plutôt haut de gamme, avec du coup, si tu veux, des clients qui sont plutôt dans le haut du panier, dans ceux qui sont prêts à développer. Et tu prends, et c'est un peu cynique, tu prends un modèle comme ceux de Google, qui sont mais probablement très bien intégrés en fait à tout le modèle économique d'achat, le parcours d'achat de Google avec AdSense, avec Shopping, avec les comparateurs de prix, etc. Et là, t'as un modèle en fait qui t'apporte de l'or en barre, littéralement. Si t'es une boîte qui fait autre chose que des modèles en fait. Et donc, ils ont peut-être pas pris le meilleur modèle. En tout cas, ils ont pris la boîte qui a le plus de fonds pour l'assurer aujourd'hui avec des revenus d'argent financier parallèle. Je trouve ça d'un cynisme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ce podcast, on va surtout parler d'outillage, de comment on avance dans l'IA, pas tant sur la puissance du modèle, mais sur son côté embed, ce que Apple cherche à faire. Gemini est plutôt bon pour ça, notamment pour l'embed sur les serveurs d'Apple, et pas sur des trucs localisés chez OpenAI. Et d'un autre côté, comment est-ce que tu enrichis ton IA avec des modules, etc. Et comment tu standardises en fait toutes les IA. Ce qui est terrible, c'est que pendant qu'il y a eu une course au modèle, j'ai l'impression que maintenant, qu'on arrive un peu au bout, on est en train de se dire, bon, maintenant, comment est-ce qu'on standardise tout ça?
C'est ça. Voilà, Après, par contre, en parlant des modèles, moi, je n'ai pas un iPhone, j'ai un pauvre Motorola milieu de gamme. Et là, j'ai installé un petit modèle à 700 millions de paramètres que ça prend même pas un giga de RAM, qui tourne parfaitement bien en local. Et là, pour plein de trucs de quotidien, en gros, il est comme ChatGPT il y a une année et demie, un truc comme ça. Si je le demande des trucs spécifiques, il va halluciner. Mais si je lui demande de me résumer un article, ou si je lui demande de m'aider à corriger un texte, et tout ça, il le fait à une vitesse de plusieurs dizaines de tokens par seconde. Et tout ça dans un téléphone banal. Donc aujourd'hui, bah, la course au grand modèle, pour moi, je suis d'accord avec ce que Clément dit, c'est une course à l'échalote où ouais, bah, ils sont obligés à la faire, mais ils vont pas, il n'y a pas fondamentalement de grandes différences, d'énormes différences entre un Opus 4.5 et un Opus 4.6 ou un GPT 5D 5.3. Par contre, dans les petits modèles, les différences sont énormes. Et tous les jours, ce week-end, il y avait Mistral, notre Mistral européen, qui sortait un nouveau modèle de transcription en temps réel sur plusieurs langues. Et qu'il est sorti en open source, et transcription en temps réel plusieurs langues, 4 milliards de paramètres, ça veut dire que même dans un vieux Mac M1 à 8 Go de RAM, il va tourner. Tu peux définir temps réel pur ou te permettre un décalage jusqu'à 200 millisecondes, et avec le décalage, les résultats de la transcription sont simplement incroyables. Et tout ça dans un petit modèle qui tourne en local. Donc pour moi, c'est sur ce côté-là que je pense qu'on va avoir des énormes surprises dans les mois à venir.
Mais du coup, c'était pour le test que tu as fait sur ton téléphone, ou tu t'en sers vraiment quotidiennement?
Sur mon téléphone, c'était pour les tests, mais pas que. Et il y a des fois, déjà, je suis peut-être vieille école, je suis peut-être un peu paranoïaque, mais je n'aime pas envoyer mes mails. Autant sur le papier, j'adore les initiatives comme OpenClaw, autant je ne suis pas prêt à mettre mes mails et libre accès pour un LLM. Il y a des choses que je préfère avoir en local. Si j'ai un message à rédiger, un mail envoyé, il y a aussi une question de privacy. Et là, avec un modèle comme ça, c'est chouette. En plus, je me déplace relativement souvent dans les avions, les trains, le Wi-Fi n'est pas toujours top. Moi, j'ai sur mon Mac, comme Clément disait, un DevStral et un GPT OSS. J'ai sur mon téléphone des modèles locaux. Écoute, ce n'est pas parfait, mais c'est un mode dégradé fort intéressant pour moi.
Quand est-ce qu'on aura, en fait, tu sais, tu mets à jour ta machine et comme à une époque où on téléchargeait des codecs, des nouveaux drivers, on va télécharger des nouveaux mini-modèles pour, tu sais, faire des trucs. Et ce qui me fait dire ça, c'est qu'on parle du côté open source de ce qu'a fait Mistral avec Voxtral. Il y a deux choses qui sont arrivées il n'y a pas très longtemps. Moi, j'avais vu, vous allez peut-être parler de l'autre, mais moi, j'avais vu une implém en Rust dans le browser de Voxtral Mini 4B. Qui avait été faite, oui, je suis tombé là-dessus hier soir sur Hacker News, enfin ce matin, et c'est intéressant de voir à quel point, tu vois, tu veux maintenant même pas embed dans l'OS, mais embed directement dans le browser des fonctionnalités d'IA, vraiment très cornerisé, hein. On parle juste de.
J'ai bien trouvé les liens, Voxtral Mini Real Time RS, waouh, un Rust.
Oui! Oui, voilà, c'est ça. Et Streaming Speech Recognition, nativement dans le browser, implémentation pure Rust. Et c'est pas mal. On peut peut-être enchaîner avec celui dont on avait... on a un lien similaire, je crois, dans les show notes à venir. On peut peut-être en faire une transition.
Oui, je viens de te mettre les liens de celui en Rust dans les navigateurs.
Mais on a aussi l'autre sortie de la semaine.
Oui. Laquelle?
Oups. Eh ben, je crois que tu allais le lancer. C'est ouais. c'est la version C qui a été faite par Antirez.
Antirez, c'est l'auteur de Redis, pour ceux qui ne le savent pas.
Exactement. Et lui, il a fait une implémentation pure, c'est-à-dire que en C, donc un peu old school, mais qui ne te permet d'avoir, enfin qui t'autorise de ne faire de l'inférence qu'avec du CPU uniquement en real time avec un modèle à 4 milliards de paramètres. C'est sorti il y a 4 jours. Alors on tourne, on a le 10 février.
Et les liens, je suis en train de les copier-coller, donc on l'aura aussi. Hop, voilà. Antires, que effectivement, il s'est mis à faire des choses super intéressantes autour de l'IA. Et on en parlera tout à l'heure parce qu'il a aussi écrit quelques posts où il donne sa vision de développement avec de l'IA et du futur de dev, qui est plutôt optimiste et très positive et à laquelle j'adhère
Ouais, c'est un
beaucoup.
article très rassurant. Ouais. Ça sera cool d'en parler de ça.
Voilà. Bon, bah, écoute, je crois qu'on a fait un petit tour sur les outils de dev avec IA. On pourrait peut-être changer. Et voilà, on est quand même les massis. On nous dit souvent qu'on parle à tort ou à raison des sujets qui ne sont pas purement tech. On a quelques sujets de ce qu'on pourrait appeler tech et société, que ça serait intéressant. Et tiens, je pense que le premier, Clément, tu nous avais mis un lien très intéressant et plutôt triste et pas rassurant autour de Washington Post. Tu veux en parler?
Oui, c'est tombé ces derniers jours et ça a été renouvelé ce matin parce qu'il y a eu quelques news là-dessus. Alors, le contexte est assez simple. Jeff Bezos possède le Washington Post, qui est un des plus éminents journaux américains, une période
Prestigieux, ouais.
américaine. Et il a appuyé sur le bouton récemment qui permet de virer 300 personnes sur 800. Notamment une grosse partie de la presse étrangère. Donc là, aujourd'hui, vous avez en fait des journalistes qui sont sur le front en Iran, qui sont sur le front en Ukraine, qui sont un peu partout dans le monde, à qui on dit on vous coupe les fonds. Même si ça fait 1 ou 2 ans que vous êtes loin de vos proches et tout, on s'occupe plus de vous, vous avez plus de sécurité, plus rien, plus de job et vous débrouillez. Et ça. T'es dit, putain, la vache. Ça fait un peu mal. Et donc, en fait, pour pallier à ça, ce qu'ont fait, en fait, les directeurs de rédaction qui veulent pas, en fait, se retrouver avec des collègues en danger, ont commencé à mettre en place littéralement des cagnottes. Donc, t'as un milliardaire qui possède un journal, il appuie sur un bouton, et après, il faut se débrouiller avec des cagnottes pour sauver une partie des journalistes d'une pas de précarité mais de danger parce que ce sont pour la plupart des reporters sur des lignes de front un peu chaudes tu vois.
C'est plus que la précarité, carrément.
Ouais.
Mais...
Et ça te fait poser la question de, mais en fait comment on s'est retrouvé là dans cette situation-là? C'est intéressant parce que en fait le journalisme aujourd'hui si tu veux il a une carte à jouer dans la mesure où on a énormément en fait de contenu qui apparaît sur Internet et que les gens ont accès à du contenu. Ce que j'appelle contenu, c'est pas forcément positif hein, dans ma bouche. Contenu, c'est pas génial. Et pourtant, il y a un déficit de l'attention qui est en train d'être fait parce que justement une grosse partie des réseaux sociaux ont eu de la recherche qui permet justement de capter énormément l'attention des gens et de la retenir de façon un peu morbide. Et les journalistes aujourd'hui sont toujours pas sur un modèle de comment est-ce qu'on fait pour recapter l'attention des gens aujourd'hui. Le New York Times avait tenté pas mal d'expérimentations il y a quelques années avec beaucoup de live, avec l'engagement des utilisateurs. Si vous descendez dans la section des commentaires du New York Times, on est plus sur un truc qui ressemble à Reddit. Alors que si vous allez dans la, c'est pas pour critiquer, mais si vous allez en fait dans la section commentaires du journal Le Monde, vous y restez pas longtemps. C'est compliqué. Et le New York Times avait réussi à trouver ça, à trouver une forme d'engagement avec son auditoire. Ils avaient trouvé en fait des logiques d'abonnement qui rendaient le journalisme un peu plus engageant. Et ils ont tout un tas de choses qui permettent en fait d'attirer les gens. Mais la plupart des journaux n'arrivent pas à faire ça aujourd'hui. Et quand tu es un journal, et en France on a pas mal d'exemples, quand tu es un journal et que tu te retrouves en fait collé à des milliardaires qui t'achètent pour avoir une forme d'information et de micro-influence, si t'as pas l'audience derrière pour assurer tes arrières financièrement, comment tu fais? Et je pense qu'aujourd'hui, le journalisme, il est plus important que jamais, et il a besoin en fait de trouver de nouvelles méthodes, et peut-être très loin en fait de la culture journalistique, de nouvelles méthodes en fait pour réengager en fait une partie de son audience et pouvoir les détourner en fait toute une partie des gens qui sont sur leur téléphone pour les réengager en fait sur du contenu intéressant. Comment tu fais ça? Il y a pas mal d'expérimentations. Il y a des pure players qui arrivent sur le marché et qui s'en sortent. Je pense à Hugo Décrypte en France, mais il y en a plein d'autres un peu partout. Et donc en fait, faut repenser un peu le journalisme et comment est-ce que tu fais du journalisme d'opinion? C'est encore plus compliqué parce qu'aujourd'hui, l'opinion elle est un peu déchirée. Et là, ce que je vois aujourd'hui à travers l'article du Washington Post, enfin à travers ce qui se passe au Washington Post, je vois en fait une conséquence, une des premières conséquences un peu délétères de ce modèle économique qui a volé en éclats depuis l'arrivée d'Internet.
Moi,
le journalisme.
Est-ce que tu vois beaucoup d'exemples de journaux traditionnels qui ont réussi? Moi, je vois surtout deux, le New York Times que tu l'as déjà cité, et en Angleterre, The Guardian, qui a aussi un modèle où c'est une fondation derrière, ils l'ont fait il y a 50 ans, la fondation, donc ils ont été visionnaires, mais du coup, c'est invendable à des milliardaires, et par contre, ils sont passés dans un mode où effectivement, ils demandent au lecteur de contribuer, c'est pas un abonnement, tu as un libre accès, ils demandent de contribuer, ça semble être sur le fil de rasoir depuis des années, mais ils tiennent et ils continuent à faire des articles de fond, des articles d'opinion et de l'information générale. Mais à part ces exemples-là, dans les players historiques, je ne vois pas beaucoup de modèles qui arrivent à s'en sortir.
Bah, t'en as deux en fait. Alors le New York Times, enfin le Guardian, ils sont intéressants parce qu'ils avaient embrassé très vite le numérique. Ils avaient embrassé très vite aussi la partie OSINT, DataViz, etc. Ils avaient un gros lab là-dessus. Mais néanmoins, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Il y a les nouvelles revues qui sortent aujourd'hui, si tu veux, sont intéressantes parce qu'elles sont un peu plus sur le temps long. Aujourd'hui, je vois l'Audace de Natasha Polony qui est sortie, qui est très intéressant, qui est très journalistique, qui est très édito aussi, très éditorialisé. Mais eux, ils préfèrent le temps long parce qu'aujourd'hui, capter l'attention sur des temps très courts pour des sujets de fond, c'est vraiment dur, quoi.
Et du coup, sur l'article. Enfin, qui parle de ce licenciement, est-ce qu'il explique, Jeff Bezos, les raisons de ce licenciement pour aller dans le sens de ce que tu dis, Clément, par exemple, sur voilà, il faut se réinventer, etc. Ou est-ce que, parce que là, je vois un nouvel acte d'allégeance envers Donald Trump, point d'interrogation.
C'est ça. En fait, si tu veux, les journalistes ont posé la question à Bezos à un moment donné, et ils ont posé la question de façon un peu orientée. C'est est-ce que c'est avec l'aube de l'IA que aujourd'hui vous faites du licenciement comme ça? Il a dit, c'est pas, ça pourrait être ça. Mais sa réponse était un peu évasive. C'était, ouais. J'ai pas lu l'article en entier parce que j'ai entendu ça sur France Q ce matin, France Culture. Et ce qui est marrant, c'est que le gars, il explique pas exactement pourquoi. Mais évidemment qu'il y a une allégeance à Trump et que tu vois que ça commence un peu à chauffer sur la scène internationale. Le gars s'aligne pour éviter de se retrouver avec des journalistes qui découvrent des trucs. Ou qui disent des trucs sur la façon dont les États-Unis agissent la scène internationale aujourd'hui, qui pourrait déplaire à Trump.
Contrôler, museler les médias, ça n'a jamais été un très bon signe.
Ah, ça sent le cramé.
Dans l'histoire, ça pue un peu, ouais, on est d'accord.
Mais de l'autre côté, dès le moment où il y a des médias qui sont contrôlés complètement par des milliardaires ou par des personnes, on ne va même pas par un gouvernement, par un milliardaire, par. Au moment où il y a des médias qui derrière, ça doit servir des intérêts de quelqu'un, là, tu as un modèle qui commence à sentir les rossis. Ouais.
Tu parles de X, par exemple ou...
Ah, tiens, parce que X, c'est un média. Oui, en effet, j'ai parlé de X à les nommer. Oui, pour moi, X, justement, c'est un média, non dans les sens où il était Twitter. Il n'était pas qu'un réseau social. À une époque, avant Musk, c'était un vrai média où tous les journalistes de la planète, mais aussi tous les politiciens, tous les gens qui avaient un rôle dans l'actualité, pouvaient interagir directement, partager des informations. Et là, quand on voit ce qui s'est devenu Twitter X et comment ça s'est vidé des gens, des contenus, des sens. Ouais. Effectivement, c'était un média et on a vu le résultat.
Oui, parce que nous, à une époque, on va encore parler comme des vieux, mais nous posait la question de comment vous faites votre veille, bah moi, une des réponses que j'avais, c'est moi, j'ai Twitter ouvert en permanence et ma veille techno, je regarde le fil Twitter, il y a des liens, je vais creuser, etc. Aujourd'hui, moi, je m'en sers plus du tout, quoi, depuis que c'est devenu X, voilà.
Moi, je fais des listes. Je fais des listes avec juste des petits groupes de gens que j'ai envie de suivre par thématique. Et puis, voilà. Le plus dur pour moi, c'est quand tu arrives sur l'application, sur la page web, c'est de te retrouver en fait avec le feed qui a été construit pour que tu restes dessus et que tu te colles comme un moustique face à une lumière un peu blafarde. Alors qu'il y a des choses intéressantes, ça dépend de votre navigateur, mais vous pouvez littéralement transformer la home de Twitter en quelque chose d'un peu plus digeste, en virant les tris un peu chelous. Grâce à des plugins qui peuvent être pertinents.
Des extensions et tout ça.
Des extensions, tout ça. Il y en a plein qui font les choses très bien. Ça rend Twitter plus respirable quand tu as envie d'y passer. C'est comme la section commentaires de Le Monde. Hein.
C'est ça.
On y revient. Hein.
Après, j'aurais jamais pensé dire un jour que des fois j'irais faire la veille sur LinkedIn et maintenant je me retrouve à trouver des vrais articles écrits par des gens qui ont envie de partager, qui faisaient avant sur Twitter et que maintenant ils le font sur LinkedIn.
Mmh. Mais tu sais, tri, hein. Voilà, ouais. Il faut une bonne machette dans cette jungle.
Ouais, il faut faire les tri. En fait, alors je trouve que justement, c'est vrai qu'il y a eu ce gros rush de... je pense que c'est X hein, qui a provoqué du coup ce rush où tout le monde est arrivé sur LinkedIn et c'est devenu un peu le réseau social professionnel où tout le monde est arrivé. Mais moi, enfin, je sais pas vous, hein, je suis désolé, hein, je vais parler honnêtement. Moi, il y a la moitié. Alors du coup, il y a des gens que j'ai virés parce que c'était plus possible d'avoir du blabla.
Cher réseau,
ouais,
non, aujourd'hui alors, j'ai dit ça... non à un client et c'est la meilleure décision de ma vie.
Ouais, ça, les posts écrits par IA, les gens qui s'improvisent experts IA du jour au lendemain où ils étaient avant experts en gros hacking, enfin en fait au bout d'un moment, voilà, c'est moi ça, j'ai pas assez, enfin c'est j'ai pas assez de mental disponible pour supporter tout ça, donc
ah bah, moi j'ai mes limites. Aux gens que je connais personnellement, c'est que et aux choses que les gens que je connais republient, et là en général tu as un tri qui est déjà plus raisonnable, mais effectivement comment faire de la veille en 2026, c'est un sujet à part entière.
Moi j'ai une réponse.
Il faut écouter Massy
et avoir un bon lecteur de RSS. Et c'est pas parce que Google vous en a attiré sur Google Reader il y a 15 ans, d'accord. Mais prenez un bon lecteur RSS, ça existe encore, il y a encore des super blog posts qui sont faits comme ça.
Je vais avouer un truc, jusqu'à début 2025, j'utilisais massivement un lecteur RSS, NetVibes, pour les anciens, que ça continuait à marcher jusqu'à début de l'année dernière, et un jour, sans comprendre pourquoi, il a arrêté de jour au lendemain. Et depuis, je n'ai pas trop pris le temps de trouver. Donc maintenant, Clément, allez, improvisation totale. Tu utilises quoi comme lecteur RSS, s'il te plaît?
Feedly.
Feedly.
Peut-être juste un truc. Est-ce que c'est pas bien aussi de faire sa veille à la machine à café en discutant avec ses collègues, en fait? Je trouve.
Quand t'as un bureau, ça,
ouais. Ouais, non, mais alors on peut le faire en
c'est
vidéo.
Mais... virtuel. Nous, côté Clever, on a un canal de discussion dédié à faire. Non, on a plusieurs.
Oui, voilà.
Un sur la veille tech, l'autre sur la veille IA et un autre sur une veille plus générale marché. Donc, oui, c'est.
Parce qu'en fait, ça marche pas mal, ça, de discuter comme ça de manière informelle. Alors oui, autour de la machine à café, c'était pour l'image, mais je trouve que oui. Enfin, moi, c'est comme ça. Peut-être aujourd'hui que j'apprends le plus de choses, ces discussions informelles. Tiens, t'as vu tel truc ? Un peu comme on fait là, au final. Hein. On partage des liens les uns les autres, on échange, on garde ce qui nous intéresse, on va creuser ce qu'on a envie de creuser. Ouais, je trouve que
t'as raison.
C'est pas en mal fait... le lien social finalement. C'est bien.
En fait, ce que je trouve drôle, c'est que je dis Feedly comme de façon extrêmement fière en disant je suis un mec, j'organise mes articles de blog et tout. C'est qu'à moitié vrai. Mais là où j'ai quand même, je dois l'admettre, plus de la moitié de ma veille qui arrive, c'est par Instagram. Littéralement, par DM Instagram. Moi, j'ai mes potes, ils m'envoient des trucs par Instagram. Bon, ouais, bien. À la rigueur, par texto, mais la plupart du temps, les gens, tu sais, ils scrollent sur un truc rigolo qui a été résumé par Brut ou par une version Instagrammée de Hacker News, je sais pas quoi. Et j'apprends des trucs ultra niche sur des modèles d'IA méga pointus ou sur des méthodos à la con. C'était par Instagram. Donc oui, la machine à café, si tu veux.
Mmh.
La
Les
machine
réseaux sociaux.
virtuelle, moi, les canaux côté Clever sont une mine d'informations. Et moi, je trouve que ça reste une super méthode. Mais tiens, ça me rappelle un autre truc. Et il y a pas mal d'articles qui ont apparu récemment, nous, ça, sur. Voilà, on est tous ici des vieux, même Clément commence à être dans la catégorie vieux. Et la question est, nous, voilà, on est des seniors, on a nos habitudes, mais comment est-ce qu'on fait avec les juniors aujourd'hui? Comment est-ce qu'un junior peut construire son expérience dans ce monde de la IA, de l'évolution par IA, de tout ça? Et là, c'est des questions, je n'ai pas de réponse. Il y a beaucoup de monde qui réfléchit. Il y a le dernier article que j'ai mis, c'est un article de Zach Swirs qui dit, basiquement, il compare la IA avec des machines-outils, type des machines-outils d'atelier. Il dit, tout ça, ça demande un apprentissage. Et aujourd'hui, on est en train de lâcher des juniors et des étudiants à apprendre à développer avec la IA à côté. On est tous d'accord que le métier va changer, mais on semble être beaucoup d'accord avec que les fondamentaux vont il vaut mieux les connaître si on veut être un développeur IA efficace quand même. Comment on fait tout ça? Et le seul consensus que je semble voir, c'est qu'il va falloir trouver un moyen de repenser l'enseignement, l'onboarding, le mentorat, revue de code, plein de choses qui doivent être reconstruites si on veut réussir à intégrer de nouvelles générations dans ce métier qu'on est en train de transformer.
Oui, alors je rebondis juste sur un truc que tu as dit, c'est repenser l'enseignement, la façon dont on enseigne notre métier. Ça me paraît fondamental. Je vais prendre un exemple tout bête. Hein. Moi, je donne des cours de temps en temps à la fac à Poitiers. Et aujourd'hui, j'ai vu, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, les étudiants encore écrire du code à la main sur du papier pour des examens, parce que en gros, pas le droit à Internet. Et donc, écrivez l'algo en JavaScript pour faire ça. Bon, ça, je pense que typiquement, ça ne va pas du tout, ça. Tu vois. Quel est l'intérêt aujourd'hui de demander d'écrire du code avec un stylo sur du papier? Donc, je pense qu'il va falloir repenser la façon dont on enseigne notre métier. Peut-être que finalement, écrire du code dans un langage, c'est peut-être un peu accessoire. Par contre, tous les fondamentaux dont tu parlais, l'algorithmique, les fondamentaux mathématiques, la théorie des graphes, c'est quoi un algo de plus court chemin, enfin ce genre de truc. Et puis d'autres skills sur l'architecture, de la culture tech, travailler tout ça en fait, pour bien être capable d'appréhender l'écosystème, les systèmes d'information, comprendre comment ça marche, etc. Et moi je pense que écrire le code, finalement, ça va devenir un peu accessoire. Il faut être capable de juger est-ce que le code, est-ce qu'il fait ce qu'il doit faire, ce genre de choses. Mais après, voilà, écrire sans IA aujourd'hui, ça me paraît pas être le sens de l'histoire, quoi.
Alors, moi, là-dessus, il y a une réflexion que je m'étais faite. C'était après le visionnage d'une émission de Micode sur l'IA et les devs. Je m'étais dit, toi, t'es plus à l'école. Donc, comme tu dis, on est des vieux, machin et tout. Il y a des notions en informatique qui peuvent nous manquer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend un bouquin et puis on drill. Oui, on peut faire ça. Mais je me dis, et plutôt que de me prendre un bouquin, si je prenais, par exemple, pas un abstract, mais une table des matières d'une dimension que j'ai envie de creuser, d'une notion que j'ai envie de creuser, par exemple, je sais pas, moi, l'algèbre linéaire, pour dire n'importe quoi, et tu dis à ton modèle, voilà, apprends-moi par les bases, en commençant par là et en finissant par ici, cette matière, pour apprendre à faire ça en code, et faisons les définitions, et propose-moi des exercices, et propose-moi des formulations. Et toi, tu tapes, tu écris, tu fais des formulations, à la limite, tu sors un tableur, tu fais des trucs, tu envoies le résultat au chatbot, et Est-ce que ça marche? C'est un truc que j'ai vraiment envie d'essayer, c'est mettre en fait le ChatGPT ou le Claude dans une position de prof et de lui dire vas-y, apprends-moi et puis valide mes connaissances selon tel barème académique. Est-ce qu'on aurait des trucs pour nous permettre de faire ça, tu vois, des canevas? Ouais, Horatio.
Moi, j'avoue que tout ce que j'ai appris ces dernières années, je l'ai fait comme ça. Je n'ai plus lu un bouquin technique. J'ai surtout demandé d'apprendre un peu. Ce n'est pas aussi structuré, mais en m'appuyant sur ChatGPT et Claude, et en donnant des exemples, des liens, parce que des fois, c'est des sujets nouveaux dans lesquels il se connaît pas assez. Par exemple, quand les MCP ont démarré, je me suis mis à coup de tiens, Claude, ça c'est l'MCP, mais voilà, et j'ai fait un peu un apprentissage guidé grâce à ça, et je trouve que c'est hyper efficace. Après, il faudrait arriver à trouver les frameworks pour pouvoir faire ça à l'échelle. Comme tu disais, ça marche parce que tu as l'expérience. On est
Oui.
donc tu peux gérer un auto-apprentissage aidé par IA. Dans le cas des étudiants, ça ne serait pas un auto-apprentissage, mais un apprentissage. Ça impliquerait que des enseignants les fassent. Donc, moi, l'année dernière, en fin d'année, j'ai fait un module pour des étudiants autour de Kubernetes. C'est un bon exemple parce que je l'avais déjà fait avant la IA. Et là, j'ai testé d'autres choses en me servant de la IA pour m'aider à générer des trucs, en sortant, en donnant des exercices que j'aurais jamais donné il y a 10 ans, parce que les faire tout seul de zéro, c'était pas possible, mais que, en me disant, ils vont utiliser la IA, ce qui m'intéresse, c'est que les concepts soient compris. Donc, je peux pousser plus loin l'exercice et après vérifier si les concepts étaient là. Mais ça m'impliquait refaire complètement mes modules. J'ai passé une bonne partie de mes vacances de Noël à refaire un module de formation pour l'adapter à ça.
C'est intéressant. C'est intéressant, mais la question que je te poserais, c'est comment est-ce que tu t'assures que ce soit déterministe? C'est-à-dire que les LLM, on connaît leur capacité en fait à prendre des vessies pour des lanternes par moment.
C'est ça?
Comment est-ce que tu dis, par exemple, tiens, pour prendre ton exemple de Kubernetes, à la fin du module, tu vois, tu te dis, bah, vous avez un exercice à faire et vous allez le faire directement dans un terminal qui est généré par un LLM. Par exemple, comme avec une MCP app dont Sébastien nous parlait tout à l'heure. Et là, tu te retrouves face à un terminal et tu dois installer un cluster Kubernetes. Ou même, tu sais, tu as trois terminaux pour trois machines. Et tu te dis, voilà. Et comment est-ce que tu t'assures que le LLM te fasse un truc répétable,
Je
etc., sur
m'assure
un
pas
chemin?
justement, parce que
Et
l'exercice, c'est que eux, dans la vraie vie, ils vont
il le fasse, oui.
avoir ce
Ouais.
problème-là. Donc l'exercice, c'est faites et expliquez-moi après. Par contre, j'avais la chance, c'était 20 élèves et j'ai beaucoup poussé l'oral. Mais pour moi, l'évaluation de module,
Ah
c'est
oui.
expliquez-moi ce que tu as fait et pourquoi. Et les erreurs sur lesquelles tu es tombé avec l'LLM, racontez-moi
OK.
l'histoire et montrez-moi que tu n'as pas fait que prompter, que tu as compris des choses. Et là, effectivement, il y avait un groupe qui était plutôt motivé. Donc, la plupart des groupes de travail, des binômes, ont su me donner des réponses. Après, il y avait certains qui, comme je vois souvent, ils sont même bouclés. Quand tu vois les moments où l'LLM te donne une erreur, tu comprends pas, tu les réponses, l'LLM essaie de les corriger, il finit par boucler. Il y a toujours un groupe qui boucle sur ça et qui te dit, mais au fait, tu fais que copier-coller, tu t'en sors pas. Mais pour la plupart d'élèves, ça a donné un résultat où à la fin, ils savaient déployer des vraies apps en mode distribué sur Kubernetes plus loin que dans tous les TP que j'avais fait avant, et ils ont su m'expliquer les bases, plus ou moins, ils avaient compris. Et donc, je me
Ouais,
suis
ok.
c'est pas la pire mauvaise approche. Le prix à payer, c'est il faut parler, il y a de l'oral pour montrer ce qu'ils ont compris. Parce que par écrit, bah, tout est généré, donc on s'en fout. Je n'ai pas envie de sortir les papiers et les crayons, je n'avais pas envie de corriger ça. Par contre, si tu prends le temps de l'oral et tu ne demandes pas, voilà, donnez-moi tous les détails. Les détails, c'est l'LLM qui les fait, mais explique-moi. Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que tu as apprenti? Comment? Et montre-moi que tu as compris le concept derrière. Sur ces parties-là, j'étais très, très agréablement surpris.
Oui, ah oui, alors c'est marrant, j'ai à peu près la même expérience que toi. On a changé notre façon d'évaluer les élèves hein, sur les cours qu'on donne avec un collègue. Déjà, le premier truc qu'on a fait, c'est on leur a dit dès le début, on ne va pas vous interdire d'utiliser l'IA pour réaliser vos projets. Parce que ça, c'est un truc qu'ils avaient peur. Voilà. Donc nous, on s'est positionné en « attendez, non, c'est le sens de l'histoire ». Par contre, on va pas le faire n'importe comment, on va faire des corrections ensemble et on va voir comment bien utiliser l'IA. Et on va aussi vous dire aussi que des, enfin, on va vous montrer comment on peut mal l'utiliser aussi et expliquer pourquoi. Genre copier-coller la grosse stack trace sans rien comprendre et puis juste faire des copier-coller dans les chats, voilà. Donc du coup, on a travaillé comme ça et sur les parties travaux pratiques et tout, exactement, on les interrogeait sur voilà, vous avez eu ça comme problème, comment vous l'avez résolu, pourquoi vous avez fait ce choix-là, etc., etc. Et du coup, on a même ajouté une partie dans les évaluations qui était une espèce d'interro oral, comme on pourrait faire en entretien d'embauche. Hein. Des fois, on nous soumet un problème. Demain, vous devriez développer telle fonctionnalité pour notre entreprise. Comment vous feriez? Et du coup, on va venir un peu les juger là-dessus, sur leur capacité à résoudre des problèmes, à proposer des solutions, etc. Donc, l'enseignement doit changer, est en train de changer, en tout cas, j'ai l'impression, puisqu'on a la même expérience au ratio en tant qu'intervenant extérieur. Ça.
Moi, j'ai vu plein de gens, notamment dans les formations, qui disaient « Ouais, non, l'IA, c'est compliqué, parce que ça nous permet, on a du mal à gérer les élèves et tout, machin, là-dessus. » Ils sont pas adaptés. De l'autre côté, il est pas rare, en fait, de voir des jeunes ont du mal avec l'IA, et pour d'excellentes raisons, hein, ils ont du mal à avancer avec, mais aussi parfois pour de mauvaises. Et ça, c'est un truc, on en parle souvent avec Quentin, où la perception de développeur est vue comme vraiment une espèce de craft d'artisan, etc., où tu fais bien ton code, etc., tu fais tes magnifiques algos, tu passes du temps sur ton projet, etc. Là aujourd'hui, avec l'IA, cette approche-là, elle est changée, parce que la fréquence des releases, elle augmente, la productivité des développeurs, si tu veux, bah, elle s'étalonne, si tu veux, sur une espèce de truc un peu plus, un peu moins différencié entre plusieurs devs, parce que justement l'IA va tendance à ramener un peu tout le monde dans la moyenne, parce que finalement tout le monde utilise les mêmes outils, et ça fait écho à ce que avait écrit justement Thérèse, du coup je bypass sur le prompt, mais qui disait tombez pas en fait dans cette hype anti AI. Alors c'est vrai que l'article date un petit peu, hein, il est du 11 janvier, il a presque quasiment un mois maintenant, mais il était assez intéressant de voir à quel point le type avait l'impression de dire c'est facile de tomber dedans, mais il avait de bonnes raisons de dire que c'était pas le cas. D'un autre côté, je pouvais pas forcément lui donner tort. Vous avez lu cet article?
Oui.
Ou pas? Ouais, ouais.
Je pense qu'il a fait
repartagé, repartagé partout.
Je l'ai lu, je l'ai partagé, j'ai reçu des partages. Je pense qu'il a très bien circulé, mais c'est un super article et c'est à la base un article de quelqu'un qui est, pour moi, un des meilleurs développeurs. C'est depuis très très longtemps, et la façon de voir ça, c'est optimiste et réaliste en même temps, et ça m'a beaucoup plu.
Oui, et on s'en reconcentre sur ce qu'est notre métier au final, je trouve, hein. C'est apporter des solutions, développer des solutions pour des utilisateurs qui ont besoin d'une feature, qui sont confrontés à un problème, etc. Et on se reconcentre sur notre potentiel créatif. Hein. C'est ça dans sa conclusion en Thérèse. Voilà. Et ça, moi, c'est je trouve ça bien.
C'est là oui. Que je vois une dichotomie dans les devs. Pour moi, il y a des types de devs, mais à la base, il y a aussi des types de personnes qui font des devs. Une qui adore créer de nouvelles choses et une autre qui adore coder. Et ce n'est pas exactement la même chose. Il y a des développeurs qui sont plus, non, mais moi, je code pour créer une nouvelle application, une nouvelle feature, un truc qui répond à un besoin qui n'existe pas. Et il y a des développeurs qui kiffent les codes, trouver les bugs, corriger, tester. Et J'ai l'impression que les développeurs profilent plutôt, j'aime bien créer, on embrasse l'IA, mais les développeurs qui kiffent les codes en lui-même, quelque part, il y a une sorte de possession de la part de l'IA. C'est comme les gens qui kiffent la mécanique auto et qui achètent une voiture moderne dans laquelle ils peuvent plus toucher,
Même pas.
c'est...
Oui, c'est ça peut être frustrant, oui. Après moi, alors moi je suis plutôt dans la première catégorie de développeurs que tu citais, et du coup moi j'ai repris du plaisir grâce à l'IA à pouvoir reshipper de la feature, ce que j'avais moins le temps de faire. Voilà, c'est un des biais de plein de tech leads, c'est malheureusement chez certains clients on passe un temps fou en réunion et tout, et moi du coup j'arrive même à lancer des prompts pendant la réu avec Claude et tout ça, et du coup j'ai l'impression de redevenir utile un peu et de redevenir productif quoi, et de créer plein de choses, et voilà, l'IA m'aide vraiment à être encore plus créatif quoi, ça c'est appréciable.
Là, je comprends. Un peu la même pour moi. J'avais vraiment peu de temps et je me remets à faire des trucs assez drôles.
C'est ça, des side projects qui dormaient, des
Par
petites
exemple.
applis par-ci, par-là, des utilitaires, et ouais, c'est...
Mais tu te rends compte, tu passais ton week-end à essayer de faire un side project, au moins le bootstrapper. Maintenant, le samedi
Il est pas
midi, si tu
prod.
t'y es mis suffisamment tôt, t'as V1.
C'est littéralement ça.
Et le truc est documenté avec des tests.
Oui, c'est ça, ça c'est encore mieux, ouais. Bah oui.
Et documenter, bien documenter les trucs qu'avant pour un side project. Ah non, mais
Ouais.
c'est... Moi, je trouve que ça me redonne un plaisir énorme, mais je comprends que il y a des développeurs pour lesquels c'est... Mince, j'aurais préféré que la IA se dédie à faire des repassages et les ménages et les trucs que j'aime pas faire à la maison, et, mais qui ne piquent pas mes sources de plaisir.
Oui, c'est la méta du moment, ça, ouais, effectivement. À la fin, effectivement, on a toujours des tâches ménagères à faire et à vider les poubelles. Mais un truc que moi j'ai vu qui était pas complètement faux, c'est comment t'adaptes l'IA dans un flux de travail avec plusieurs développeurs. Parce que là, on parle de nos petits side projects, c'est marrant, oui, voilà, on utilise l'IA pour aller un peu plus vite et le week-end c'est en
Je te vois arriver, Clément, et vu l'heure, on ne va pas avoir le temps de discuter comme il
On
se
va devoir
doit de
parler de
la
ça dans le prochain épisode.
méthodologie.
Transition
Donc,
pour le prochain épisode.
voilà,
Super.
on va faire un petit teaser, on va parler de méthodologie dans les prochains épisodes. Et maintenant, pour finir celui-ci, on est 56 minutes d'épisode. C'est un bon moment pour ceux qui nous écoutent pendant qu'ils font leur sport. On arrête l'épisode. Sébastien, tu peux nous proposer une musique de fan? Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Qu'est-ce que tu as dans les oreilles ou dans la tête niveau musique en ce moment que tu voudrais partager avec nos auditeurs?
Ah, alors moi j'adore. Alors après, oui, la musique c'est très lié à mon état d'esprit du moment. Mais là, c'est plutôt zen, donc j'aimerais bien écouter un des meilleurs albums de grunge selon moi des années 90, le MTV Unplugged de Nirvana et la reprise de David Bowie, The Man Who Sold the World. Voilà, tout simplement.
Magnifique.
Bah, avec ces belles recommandations, je pense que c'est le moment de dire au revoir. Merci Clément, merci Sébastien.
Merci.
C'était un super
Merci.
épisode. Merci à vous de nous écouter et on se voit dans les
Merci.
prochaines.
À
À la
bientôt.
prochaine.